Chapitre 23. Le colonel Fedman Kassad avait franchi la porte en s'attendant à quelque chose d'étrange. Au lieu de cela, il ne trouva que l'insanité chorégraphiée de la guerre. Moneta l'avait précédé. Le Gritch l'avait escorté, les lames de ses doigts enfoncées dans son avant-bras. Lorsque Kassad émergea de l'autre côté du rideau vibrant d'énergie, Moneta l'attendait et le Gritch avait disparu. Kassad reconnut immédiatement l'endroit où il se trouvait. La vue était celle que l'on avait du sommet de la montagne basse où Billy le Triste avait fait sculpter son effigie près de 2 siècles auparavant. Les 3 plateaux qui formaient le sommet du pic étaient vides, à l'exception des débris encore fumants d'une batterie défensive de missiles antispatiaux. D'après l'éclat vitrifié du granit et l'aspect du métal fondu encore bouillonnant par endroits, il supposait que la batterie avait été anéantie par un engin en orbite. Moneta s'avança jusqu'au bord de la falaise qui dominait, 50 mètres plus bas, le front massif de Billy le Triste. Kassad la rejoignit. Le spectacle de la vallée, de la cité et du port spatial, 10 kilomètres plus haut en direction de l'ouest, était suffisamment éloquent. La capitale d'Hyperion était en flammes. La vieille ville, Jacktown, était une tempête de feu miniature. Une 100aine de foyers secondaires s'éparpillaient dans les faubourgs et le long de l'autoroute du port spatial comme des balises lumineuses allumées à dessein. Même le fleuve Ouli était en feu, et la nappe de pétrole enflammée se répandait rapidement en direction des anciens quais et entrepôts. Kassad aperçut le clocher d'une vieille église qui se dressait au-dessus du brasier. Il chercha l'emplacement de chez Cicéron, mais la taverne était cachée par les flammes et la fumée qui venaient de l'amont du fleuve. Les collines et la vallée formaient une masse en mouvement, comme une fourmilière saccagée d'un coup de botte. Kassad distingua les routes, couvertes d'un flot humain qui s'écoulait plus lentement qu'un vrai fleuve. Des dizaines de milliers de personnes évacuaient la zone des combats. Les éclairs de l'artillerie et des armes énergétiques couvraient tout l'horizon et illuminaient les nuages bas qui flottaient dans le ciel. Toutes les 2 ou 3 minutes, un engin volant, généralement un glisseur militaire ou un vaisseau de descente, surgissait du nuage de fumée qui entourait le port spatial ou des collines boisées du nord et du sud. L'atmosphère se remplissait alors de traînées de lumière cohérente venues d'en haut comme d'en bas, et l'engin retombait en laissant derrière lui un sillage de fumée noire et de flammes orangées. Des aéroglisseurs détalaient sur le fleuve comme des punaises d'eau, zigzaguant au milieu des épaves de bateaux, de barges ou autres glisseurs en flammes. Kassad remarqua que le seul pont qui franchissait le fleuve était détruit. Même sa chaussée et ses butées de pierre et de béton étaient la proie des flammes. Les lasers de combat et les rayons des clapes trouaient la fumée. Les missiles antipersonnels étaient visibles sous la forme de taches blanches qui se déplaçaient plus vite que le regard ne pouvait les suivre, en laissant derrière elles des traînées miroitantes d'air super chaud. Sous les yeux même de Moneta et de Kassad, une explosion souleva, aux abords du port spatial, un champignon de flammes. « Ce n'est pas nucléaire, » pensa-t-il. « Non, » répondit muettement Moneta. La combinaison qui lui couvrait les yeux agissait comme une visière de la force considérablement améliorée, et Kassad utilisa toute sa puissance pour observer une colline qui se trouvait à 5 kilomètres au nord-ouest, de l'autre côté du fleuve. Des marines de la force étaient en train d'en investir le sommet. Certains s'étaient déjà laissés tomber à terre et se servaient de leurs charges creuses pour créer des tranchées individuelles. Leurs armures de combat étaient activées, les polymères de camouflage étaient parfaits. Les signatures thermiques étaient réduites au minimum, mais Kassad n'avait aucune difficulté à les voir. Il pouvait même distinguer les visages s'il le voulait. Les canaux de commandement tactique et les faisceaux étroits parvenaient à ses oreilles comme un chuchotement lointain. Il reconnut les exclamations excitées et les obscénités nonchalantes qui sont le propre des combattants depuis trop de générations humaines pour qu'on puisse les compter. Des milliers d'hommes avaient pris position autour du port spatial et des zones de rassemblement. Ils s'enterraient sur un cercle dont la circonférence était à 20 kilomètres de la cité. Les rayons de ce cercle étaient des zones de tir et des vecteurs de destruction totale soigneusement étudiés. Ils se préparent pour une invasion. Kassad ressentait l'effort de communication comme un peu plus qu'un message subvocal et un peu moins que de la télépathie. Moneta leva un bras de vif argent vers le ciel. Il y avait là un énorme nuage, à 2000 mètres d'altitude au moins, et il eut un choc en voyant sortir de là un point brillant, puis un autre, puis une douzaine et une centaine de vaisseaux qui plongeaient vers le sol. La plupart étaient camouflés par des polymères et par des champs de confinement codés accordés à leur environnement, mais Kassad, là aussi, les distinguait sans difficulté. Sous les polymères, les coques de métal gris portaient des marques discrètes dans la subtile calligraphie des extros. Les plus gros appareils étaient de toute évidence des vaisseaux de descente. Leurs traînes de plasma bleu se voyaient nettement. Les autres descendaient lentement sous le miroitement de leurs champs de suspension. Kassad remarqua la taille et la forme ventrue de leurs cylindres d'invasion, remplis pour certains de matériel et d'artillerie, mais probablement vides pour beaucoup d'autres, et destinés à leurrer les défenses au sol. Un instant plus tard, le plafond nuageux fut de nouveau rompu et une grêle de plusieurs milliers de petits points s'abattit vers la surface. C'était l'infanterie extro qui tombait en chute libre parmi les cylindres et les vaisseaux de descente, attendant le dernier moment pour déployer ses champs de suspension et ses ailes portantes. Quelle que soit son identité, le commandant de la force avait de la poigne et de la discipline, aussi bien sur lui-même que sur ses hommes. Ses batteries au sol et les milliers de marines déployées autour de la cité ignorèrent les cibles faciles représentées par les cylindres et les vaisseaux de descente pour attendre que s'ouvrent les dispositifs de freinage des chuteurs. Certains n'entrèrent en action qu'un peu au-dessus de la cime des arbres. À cet instant, le ciel se remplit de milliers de rayons et de traînées de fumée tandis que les missiles explosaient partout et que les lasers trouaient la fumée. Au premier coup d'œil, la riposte semblait dévastatrice et suffisante pour faire échouer n'importe quelle attaque. Mais une rapide évaluation visuelle indiqua à Kassad que 40% au moins des extros avaient touché le sol indemne, et c'était un taux acceptable pour une première vague d'assaut planétaire. Un groupe de 5 chuteurs obliqua en direction de la montagne où Kassad se tenait avec Moneta. Des rayons partis du pied des collines en firent tomber 2 en flammes. Un troisième, pris de panique, se laissa descendre en vrille pour éviter d'être abattu. Les 2 derniers accrochèrent une brise venue de l'est qui les envoya spiraler dans la forêt en contrebas. Tous les sens de Kassad étaient maintenant en éveil. Il sentit l'odeur d'ionisation, de cordite et de propergol solide. La fumée et l'acide des explosifs au plasma lui dilataient les narines. Quelque part dans la cité, des sirènes ululèrent tandis que des détonations d'armes individuelles et des crépitements d'arbres en feu montait jusqu'à lui, porté par la brise légère. La radio et les canaux de communication sur faisceau étroit produisaient un incessant babillage. Les flammes embrasaient la vallée. Les lasers fouillaient les nuages de leurs faisceaux. 500 mètres plus bas, là où la forêt laissait place à l'herbe des contreforts des collines, des escadrons de marines de l'hégémonie étaient engagés dans une bataille au corps à corps avec des chuteurs extro. On entendait des cris. Fedman Kassad observait tout cela avec le même genre de fascination que celle qu'il avait ressentie lors de la stim-sim de la charge de cavalerie française à Azincourt. « Ce n'est pas une simulation ?»«
Non, »
lui répondit Moneta. « Et c'est en train de se passer maintenant. » Le fantôme de vif argent qui se tenait à ses côtés pencha la tête.
« Que signifie maintenant ?»«
Un moment contigu à notre rencontre dans la vallée des tombeaux. »
Non.
Dans l'avenir, alors?
Oui.
Un avenir proche?
Oui. 5 jours à partir du moment où tes amis et toi vous êtes arrivés dans la vallée.
Kassad secoua la tête, désorienté. S'il devait croire ce que disait Moneta, il aurait voyagé en avant dans le temps. Il vit les flammes se refléter sur son visage lorsqu'elle se tourna lentement vers lui pour demander
« Voudrais-tu participer à la bataille ?»
La bataille contre les extros. Il croisa les bras et regarda les combats avec une intensité renouvelée. Il avait eu un aperçu des étranges capacités de combat de sa combinaison de vif argent. Il était probable qu'à lui tout seul, il serait capable de changer l'issue de cette bataille en détruisant, peut-être, les quelques milliers d'extros qui avaient touché le sol.
« Non, » répondit-il muettement.
« Pas encore. Pas en ce moment.
Le seigneur de la douleur pense que tu es un bon guerrier.
Il se tourna pour la regarder de nouveau. Il était modérément curieux de savoir pourquoi elle attribuait au Gritch un titre aussi solennel. « Le seigneur de la douleur peut aller se faire maître, » pensa-t-il, à moins qu'il ne veuille se battre avec moi. Moneta demeura immobile et silencieuse durant un long moment. Elle ressemblait à une sculpture de lumière en haut d'un pic battu par les vents.
« Tu te battrais vraiment contre lui ?»
demanda-t-elle enfin. « Je suis venu sur Hyperion pour le tuer. Et pour te tuer toi aussi. Je me battrai avec le premier de vous deux qui sera d'accord.
Tu crois toujours que je suis ton ennemi ?»
Kassad se souvint de l'agression dont il avait été l'objet dans les tombeaux. Il savait maintenant que c'était moins un viol que la réalisation de son propre vœu, de son propre désir inexprimé d'être de nouveau l'amant de cette impossible femme. « J'ignore ce que tu es au juste. » pensa-t-il.
« Au début, j'étais une victime comme tant d'autres. »
émit Moneta, le regard tourné vers la vallée.
Puis, dans notre avenir, j'ai compris pourquoi le Seigneur de la Douleur avait été forgé, et pourquoi il fallait qu'il soit forgé ainsi. Et je suis devenue à la fois sa compagne et sa gardienne.
Sa gardienne.
J'ai réglé les marées du temps, j'ai entretenu les machines. J'ai fait en sorte que le Seigneur de la Douleur ne se réveille pas avant son heure.
Tu le contrôles donc ? Le pouls de Kassad s'était accéléré à cette pensée.
Non.
Par qui ou par quoi peut-il être contrôlé dans ce cas ?
Seulement par celui ou celle qui triomphe de lui en combat individuel.
Qui a déjà triomphé de lui ?
Personne. Ni dans ton passé, ni dans ton avenir.
Combien ont essayé ?
Des millions.
Et ils ont tous péri.
Oupi.
Kassad prit une longue inspiration. Sais-tu s'il acceptera que je le combatte ?
Tu le combattras.
Il exhala l'air bloqué dans ses poumons. Personne n'avait jamais vaincu le Gritch. L'avenir de Kassad était le passé de Moneta. Elle avait vécu ici. Elle avait vu, comme lui, le terrible arbre aux épines. Comme lui, elle avait vu Martin Silenus s'empaler, se débattant, des années avant qu'il ne rencontre lui-même le poète. Il tourna le dos au combat qui continuait de se dérouler dans la vallée en contrebas. « Pouvons-nous aller le retrouver maintenant ? » demanda-t-il. « Je le défie en combat personnel. » Moneta le dévisagea un long moment en silence. Kassad vit son propre visage de vif argent reflété sur le sien. Sans lui répondre, elle se tourna, fit un geste dans le vide et matérialisa une porte. Kassad fit un pas en avant et la précéda de l'autre côté.